18h à Niamey, vous êtes à l'écoute du studio Kalangou. Tout de suite, le journal en français présenté par Raylette Soumana. L'hépatite E continue de sévir dans la région de Diffa. Environ 2000 cas déclarés suspects ou confirmés et 38 décès ont été enregistrés. Nous en parlerons dans un instant. Une journée de consultation ophtalmologique gratuite organisée aujourd'hui à Niamey, au village de Goudel, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue célébrée le 12 octobre dernier. En partie magazine, vous suivrez l'entretien avec une pédiatre à propos des maladies de saison, notamment les infections respiratoires qui touchent les enfants en cette période d'harmattan. Messieurs, dames, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. Nous venons d'apprendre le décès brusque cet après-midi même de Laminou Harouna, responsable de la radio communautaire Kitari de Magaria, une radio dynamique de la région de Zender qui diffuse les programmes du studio Kalangou depuis juin 2016. En cette douloureuse circonstance, l'ensemble du personnel de studio Kalangou de la Fondation Hirondelle présente toutes ses condoléances les plus émues à sa famille éplorée, à ses collègues et à l'ensemble des auditeurs de la radio Kitari. Qu'Allah accepte dans son paradis éternel. Amen. Dans sa parution du 17 octobre 2017, la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, se basant sur les données du ministère de la Santé publique, a fait le point sur la situation de l'épidémie de l'hépatite E dans la région de Diffa. Pour rappel, cette maladie a été déclarée épidémique le 19 avril dernier par les autorités sanitaires du Niger. Habibou Garba.
Au total, 1987 cas déclarés suspects ou confirmés de l'hépatite E ont été enregistrés au 12 octobre 2017, dont 38 décès. La Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a relevé que le taux de létalité est passé de 29% au 25 avril à 1,91% au 12 octobre. Le plus grand nombre de cas a été rapporté à Diffa, avec 1408 cas. 306 cas sont relevés à Ngingimi, 250 cas à Bosso, 14 cas à Menesroa et 9 cas à Goudemaria. Les cas déclarés relèvent que les femmes et les personnes âgées de 15 ans et plus constituent la couche la plus affectée par cette maladie. Selon OCHA, le personnel des structures sanitaires et les partenaires humanitaires poursuivent les activités de la prise en charge médicale et de prévention.
Je l'annonçais en titre, le ministre de la Santé publique, en partenariat avec le Centre de bienfaisance du Niger, organise ce 20 octobre une journée de consultation ophtalmologique gratuite au village de Goudel à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la prévalence de la cécité au Niger est de 2,2% et les causes de cette cécité sont, entre autres, la cataracte, le trachome et le glaucome. Professeur Hamza Abdou, coordinateur du programme national de santé oculaire, explique le choix du village de Goudel et le déroulement de cette consultation au micro de Nafissa Adam.
Avant, quand on organisait la journée de la vue, on était obligé de la faire au niveau du programme national de santé oculaire. Or, au niveau du programme, nous n'avons pas d'infrastructure qui puisse nous permettre. On peut faire la consultation, mais on n'a pas de bloc opératoire. On était obligé d'avoir recours aux hôpitaux. Pour entrer dans les hôpitaux, il y a des modalités, donc c'est très difficile. C'est pour ça que, au niveau de Goudel, il y a eu des opérateurs économiques qui ont aidé à construire le service d'ophtalmologie de Goudel. Le programme national de santé oculaire a équipé le service. Donc, c'est qui nous permet d'avoir la consultation. Comme c'est la journée de la vue, ceux qui ont des problèmes de vision qu'ils viennent consulter. Quand vous arrivez, on va mesurer votre vision et on va vous faire examiner. Si c'est une conjonctivite, si c'est quelque chose qui a besoin d'un traitement, on vous donne le traitement. Si vous avez une cataracte et que vous êtes à une cataracte qui doit être opérée, on va vous amener au bloc, on vous opère, on vous donne les médicaments. Ouais. Tout est gratuit. En principe, aujourd'hui, on va opérer 100 malades toute la journée. Si on n'arrive pas à finir aujourd'hui, on va continuer demain.
Le Premier ministre Brigitte Rafini était en mission hier à Tawa. Il a profité de son séjour pour visiter les chantiers de Tawa Sakola. Brigitte Rafini s'est dit satisfait de l'avancement dans l'exécution des travaux.
Je dois dire simplement que je suis satisfait de ce que j'ai vu. Je suis satisfait particulièrement en ce qui concerne les travaux de voirie qui sont en cours, tant en ce qui concerne leur état d'avancement que la qualité des ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Parce qu'en vérité, le succès de Tawa Sokola sera certainement dans la voirie et dans l'assainissement. Les travaux sont en très bonne évolution. Ils seront terminés dans les délais fixés. Et ils sont effectués selon les règles de l'art. Il y a les autres chantiers également qui avancent très bien, s'agissant notamment des infrastructures d'accueil, aussi bien au niveau de l'aéroport qu'au niveau des différentes villas en construction. Je pense que le Tawa Sokola sera une fête d'un niveau, je pense même supérieur à ce que nous avons connu.
C'était Brigitte Rafini, propos recueillis par Idriss Adam. Suite à la grève de 48 heures déclenchée hier par le collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports, le ministère de tutelle a réagi à travers le directeur de cabinet, Isaac Danarba, au micro de Rukayato Abdram.
Le ministre a mis en place un comité de négociation. Ce comité s'est réuni avec les syndicats autour de la plateforme revendicative. Mais il s'est avéré que les syndicats étaient venus avec 4 préalables. Nous avons évoqué 3 points, mais un seul point a fait légion. Ils veulent que le ministre revienne sur une nomination. Entre-temps, il y a eu un décret de nomination du directeur général de l'INJS. Et c'est ça qui a encore motivé les syndicats pour qu'ils lancent un préavis de grève de 48 heures. Les syndicats ont décidé, puisque ce point-là n'a pas été réglé, de maintenir le mot d'ordre.
En région, poursuite des rapatriements de migrants nigériens par les autorités algériennes. Ainsi donc, à la date du 17 octobre 2017, 2761 personnes ont été accueillies par les autorités régionales d'Agadez. Idi Chaibou, secrétaire permanent du dispositif national de prévention des gestions de crise alimentaire de la région d'Agadez.
Et c'est 9 vagues. En tout cas, ça dépend d'une vague à une autre. Tantôt, c'est des vagues des jeunes. Tantôt, c'est des vagues qui sont composées des jeunes, des hommes, des femmes, des petits-enfants, etc. Et même des étrangers. Mais aussitôt la fin de notre profilage, les étrangers sont directement orientés au niveau de l'OIM. Et là, pour ce qui est des Nigériens, ils sont pris en charge par l'État, particulièrement leur transport. Et c'est des personnes qui rentrent dans les autres régions voisines, particulièrement Zander, Maradi, dans certains cas Tawa, un peu Dosso et Tillabéri.
Propos recueillis par Moussa Maman. 3 cas de feux de brousse survenus dans le département de Tillabéri, notamment dans les communes d'Anzourou et Sakwara. Plus de 4000 hectares ont été dévastés. Plus de précisions avec le lieutenant des eaux et forêts Maliki Djabri, chef de service département de la protection de la nature de Tillabéri, au micro de Harouna Soumaï Saleh.
Nous avons eu 3 cas de feux de brousse, dont 2 cas sont déjà évalués et le 3e cas est en cours. Donc, un cas a faré dans la commune rurale d'Anzourou, où nous avons estimé la superficie brûlée à 200 hectares. Il y a un cas aussi dans la commune de Sakwara, précisément au nord de Djambala, où nous avons estimé la même superficie à 200 hectares aussi.
Qu'est-ce qui est à la cause donc de ces incendies?
Donc, les causes sont diverses. Très souvent, moi, ce que je dis tout simplement, c'est l'imprudence des utilisateurs de ces feux-là. Les mesures prises vraiment sensibiliser la population du danger des feux de brousse, surtout en ce moment où les vents commencent déjà à souffler. Et à conscientiser la population, quand il y a un cas de feu qui se déclenche, il ne faut pas attendre. Essayez tout de suite de mobiliser toute la population pour aller combattre ce feu.
La capitale malienne Bamako a abrité du 16 au 18 octobre 2017 un colloque international sur le droit et l'esclavage en Afrique de l'Ouest. À l'issue du colloque, une déclaration dite de Bamako a été rendue publique. L'association Timidria du Niger a pris part à cette rencontre. Ali Bouzou, secrétaire général de l'association, joint au téléphone par Alamine Ouacha.
On a lancé un appel à l'endroit de l'État de Mauritanie pour la libération immédiate et en condition des militants anti-esclavagistes emprisonnés, à savoir Moussa Fidal Piram et Abdallah Mansal Basalek, pour le gouvernement malien pour qu'il adopte une loi criminalisant l'esclavage à l'instar du Niger et de la Mauritanie. Et au gouvernement nigérien, c'est l'application effective de la loi 2003 criminalisant l'esclavage. Ainsi, nous avons demandé de créer un G5 Sahel de lutte contre l'esclavage, qui prône et traduit les actions de lutte contre la paix et la sécurité dans la sous-région.
Le MENA cadet du Niger, après sa participation à la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en Inde, est de retour au pays ce jour. Le Niger, qui est à sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, toutes catégories confondues, a été éliminé en huitième de finale par le Ghana. Autre brève sport, la compétition de la CAN de Maracana se poursuit à Bamako. Hier, l'équipe senior du Niger a battu celle de la Guinée par 3-0. Aujourd'hui, les deux équipes nigériennes, les seniors et les vétérans, vont affronter les deux équipes de la Côte d'Ivoire. En deuxième match, l'équipe des seniors joue contre celle du Bénin. Tous les matchs sont prévus cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Meïga de Bamako.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition, l'Harmattan bat son plein, une période caractérisée par l'air sec et beaucoup de poussière. Une période également propice à des maladies telles que les infections respiratoires qui touchent plus les enfants de 0 à 3 mois. Nous a confié la pédiatre Ousseine Ami, pédiatre au centre hospitalier régional de Poudrière. Diallo Mariama Kenda s'est rendu aux urgences de Poudrière. Ousseine Ami en consultation.
On appelle infection respiratoire toute infection qui touche le nez, les oreilles, les poumons, la gorge, tout ce qui touche l'appareil respiratoire en fait.
Parmi ces infections respiratoires, lesquelles on peut bien remarquer que sont ceux qui reviennent le plus souvent chez les enfants?
C'est surtout la pneumonie. En Afrique, ça fait à peu près 22% de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est la plus meurtrière des infections respiratoires.
Vous dites en Afrique et au Niger, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés quand même?
Ça touche beaucoup d'enfants parce que ça représente 50% de notre consultation, rien que les pneumonies.
Comment cela se manifeste?
C'est tout enfant qui peut présenter de la fièvre, une toux, des difficultés respiratoires, le nez qui coule et qui est bouché. Maintenant, après, il y a l'examen clinique du médecin qui va vous confirmer le diagnostic. Parce que là, c'est pratiquement la saison froide qui s'installe. Donc, les enfants, s'ils ne sont pas protégés, c'est normal qu'ils développent ces infections respiratoires-là.
Protégés contre la poussière, le froid?
Oui, protégés contre le froid, contre la poussière. Et ce que j'avais pas dit, c'est que ça touche surtout les enfants de 0 à 3 mois. Donc, pratiquer l'allaitement maternel exclusif pour renforcer l'immunité de l'enfant, éviter la promiscuité, parce que c'est une maladie qui se propage dans l'air par contamination directe, c'est-à-dire qu'une personne qui est infectée, elle tousse ou elle éternue. Si vous êtes à côté avec la propagation des germes, vous allez contracter la maladie. Donc, il faut éviter le contact direct avec les patients infectés.
Comment on les protège? Est-ce qu'il y a des vêtements type?
C'est éviter de les exposer à l'air ambiant, à l'air libre si possible, et puis les protéger en les recouvrant avec des habits assez lourds, éviter les boissons trop fraîches.
Alors des habits en coton?
Et surtout en coton.
Est-ce que ça veut dire que ces enfants qu'on ne va pas les laver? Il y a une méthode comment?
On peut les laver peut-être maximum une fois dans la journée avec de l'eau tiède surtout, et puis éviter de trop laver la tête.
Comment on prend en charge cette maladie?
Ça dépend du type de pneumonie, parce qu'il y a des pneumonies virales, il y a des pneumonies bactériennes. Si c'est viral, le traitement c'est essentiellement symptomatique, c'est-à-dire que l'enfant a de la fièvre, on donne du paracétamol pour casser la fièvre, ou bien on peut faire un enveloppement humide. Quand il y a le nez qui coule, il y a des produits qu'on donne. En fonction des symptômes, il y a des traitements adaptés pour ça. Maintenant, en cas de surinfection bactérienne, on peut ajouter des traitements antibiotiques. Actuellement, chez les tout petits, c'est la prévention par la vaccination. Parce qu'avec le programme élargi de vaccination, il y a les vaccins contre le pneumocoque, contre l'hémophilus influenzae, contre les oreillons, contre la grippe, tout ça là. Donc, je conseille aux mères de surtout faire les vaccinations.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le forum de la presse.